Allez, je vous propose qu'on commence avec les 130 ans de la CGT, 130 ans d'histoire de la CGT. On va se plonger ensemble dans cette histoire avec un plateau exceptionnel. J'ai le plaisir d'être avec et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Maryse Dumas.
Bonsoir.
Maryse Dumas, tu es membre du bureau de l'Institut de l'Histoire sociale de la CGT. Est-ce que je peux te demander d'expliquer à nos spectateurs ce que c'est ?
Alors, c'est un institut qui a été créé par Georges Segui, ancien secrétaire général de la CGT, lorsqu'il a quitté le secrétariat général, et qui a pour caractéristique de faire travailler ensemble sur l'histoire sociale des militants et des militantes d'un côté, des universitaires de l'autre. Et ce petit monde qui n'a pas l'habitude de travailler ensemble, là, travaille sur des sujets historiques. Et nous découvrons absolument les uns des autres. C'est-à-dire que les militants et les militantes apprennent énormément de choses théoriques de la part des universitaires. Et je crois, j'ai la faiblesse de penser que les universitaires apprennent aussi de l'expérience militante qui est la nôtre.
Depuis combien de temps existe cet institut ?
Pardon ?
Depuis combien de temps il existe cet institut ?
Depuis 1982.
Depuis 1982, d'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être parmi nous. On va avoir besoin de toi, Maryse, pour parler de l'histoire de la CGT. On va aussi avoir besoin d'un tonnerre d'applaudissements pour Bolchegeek. Bolchegeek, on te connaît sous le nom Bolchegeek, c'est le nom de ta chaîne YouTube qui aborde la culture populaire sous les angles artistiques, sociaux et politiques. Toi, l'histoire de la CGT, tu la connais bien, il paraît même que tu vas tourner une série de vidéos avec la CGT.
Oui, cet été, là. Alors c'est encore en cours de production, mais pour les 130 ans, on va faire une série de vidéos en même temps que le Tour de France, où il y aura à chaque étape du Tour de France des luttes qui vont être mises en avant, puisque un des travaux qui a été fait pour les 130 ans, c'est de mettre en avant 130 luttes, mais pas forcément les plus connues et les plus grandes, c'est-à-dire voilà, le Front Populaire ou mai 68, mais des luttes aussi qui ont été menées par des gens de la CGT localement à différents endroits, dans différents types d'industries, de services, avec beaucoup de thématiques différentes. Donc on va essayer d'en mettre en valeur une vingtaine comme ça dans des vidéos cet été.
Eh ben merci. Comment est-ce que le syndicalisme est représenté dans la culture populaire ? Il y a peut-être des différences entre les pays aussi, non ?
Oui, alors après c'est une vaste un petit peu question, mais il y a eu en France, il y a eu une tradition de représenter le syndicalisme dans la culture populaire. Il y a même eu une période où la CGT elle-même coproduisait des films, et puis pas des films juste en interne, hein, genre La Marseillaise de Jean Renoir, qui est un film de la période un peu justement Front Populaire. Il
c'est
a été coproduit par la CGT. La CGT était très impliquée dans le cinéma, hein, de toute façon, parce que beaucoup de gens étaient syndiqués dans le cinéma là-dedans. Le Festival de Cannes, quand il a été repris en 46 à la Libération, ça a été fait beaucoup avec l'aide de la CGT. Donc il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de représentations. Ça a été aussi un peu le cas après 68, dans la Nouvelle Vague, où on représentait un peu des mouvements sociaux. Moi, j'ai tendance à trouver qu'il y a un petit déficit peut-être maintenant dans la culture populaire de représentation du syndicalisme, en tout cas en France, où on met assez peu en avant au cinéma soit des luttes fictives, soit des luttes historiques. On a la représentation du syndicaliste un peu satirique, façon caméra café, quoi, mais il y a pas tant que ça en France de ces dernières années, alors que dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, il y a quand même voilà, des films sur des grandes figures syndicales, genre Jimmy Hoffa ou des choses comme ça, alors qu'on n'a pas voilà, des films où il y a Krasuki ou des gens comme ça ou dans les cinémas tous les étés, quoi.
Merci beaucoup d'être avec nous, Bolchegeek, pour parler
avec
de l'histoire de la CGT. On est également avec Aymeric Mougeot, mesdames et messieurs. Aymeric Mougeot, tu es délégué syndical et ingénieur chez ST Microélectronique, le leader européen des puces électroniques. Tu travailles sur le site de Kroll, près de Grenoble, et ton entreprise a annoncé il y a 2 mois la suppression de 1000 emplois en France. Qu'est-ce que ça représente pour toi, un événement comme celui-là et la CGT ?
Alors, moi, en soi, je suis élu CSE plutôt que délégué syndical, mais ça change pas grand-chose.
Ah, autant pour moi.
T'inquiète. Mais on parlera sûrement un peu de ça. Moi, je suis par ailleurs à la commission confédérale qui s'occupe des questions de jeunesse. Donc pour nous, c'était vraiment un énorme enjeu de se réunir entre jeunes de la CGT pour discuter un peu de qu'est-ce qu'on veut pour notre organisation, pour le futur, pour s'organiser et gagner beaucoup de conquêtes sociales.
Merci d'être avec nous, Aymeric. On va parler de cette histoire de la CGT en grande date. On va commencer par une date et pas la moins importante, le 27 septembre 1895. C'est à Limoges que la CGT naît. Maryse, est-ce que tu peux nous dire quel a été le bain de mobilisation, de lutte qui a donné naissance à la CGT ?
Alors, les syndicats ne sont autorisés qu'à partir de 1884. Donc, il commence à y avoir d'abord des syndicats de métiers, des syndicats d'entreprises, et assez rapidement, se fait sentir le besoin de se coordonner, et notamment sous l'impulsion de travailleurs, de travailleuses, mais surtout de travailleurs, qui ont l'envie d'allier le syndicalisme du quotidien avec une visée de transformation de la société, une visée révolutionnaire, et donc ils ont besoin de se confédérer, c'est-à-dire de s'unir entre des syndicats de métiers ou d'entreprises d'une part, d'autre part la Fédération nationale des syndicats, qui est déjà une coordination, et enfin la Fédération des bourses du travail, qui elle est une organisation territoriale avec des bourses du travail qui aide les chômeurs à trouver du boulot, qui intervient aussi, qui essaye d'aider les travailleurs à se cultiver, à apprendre à lire, à écrire quelquefois, pour pouvoir trouver du boulot, etc. Et c'est cette conception totale du syndicalisme qui aboutit entre le revendicatif, se battre pour ses revendications, se battre pour changer le monde, mais en même temps être solidaire pour se rendre service, s'entraider. C'est tout ça qui fait la CGT en 1895.
Il y a aussi différentes conceptions du syndicalisme qui se sont réunies. À l'époque, c'était un vivier que j'imagine très foisonnant.
Qu'est-ce
qui les a poussés à se réunir ?
C'est l'idée que seul on est rien et qu'il faut s'unir pour faire face. Et ça c'est ce qu'on appelle la conception de classe. C'est-à-dire la CGT, c'est la Confédération Générale du Travail. Pourquoi le travail ? C'est pour faire face au capital. Donc le capital est organisé, les employeurs sont organisés, il faut que les travailleurs s'organisent. Il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils se cultivent. Il faut qu'ils se donnent les armes pour y arriver. On parlait du lien avec le cinéma tout à l'heure. Il faut savoir que les revendications dès le début de la CGT pour la loi de 8 heures, pour ne pas travailler plus de 8 heures par jour, l'argumentation c'est pour qu'on ait du temps pour se cultiver, pour apprendre, parce que, disait Fernand Pelloutier, l'ouvrier doit connaître la science de son malheur, c'est-à-dire il doit savoir pourquoi il est exploité,
c'est l'éducation
de façon
populaire
à trouver les moyens de surmonter cette exploitation.
Benjamin, toi tu viens de Limoges, qu'est-ce qui reste de cette histoire syndicale là-bas ?
Alors qu'il reste, ça a bien changé quand même, Limoges, mais Limoges effectivement historiquement, c'était la ville rouge, parce que c'était, je sais pas si c'est pour ça que ça a été choisi d'ailleurs pour le congrès de fondation, mais c'est une ville ouvrière, on connaît tous, bon évidemment tout le monde connaît la porcelaine, mais il y avait aussi les choses et tout. Donc il y avait une histoire ouvrière qui, malheureusement, ces industries-là, elles ne sont plus vraiment là. Donc ça reste dans la mémoire. Donc c'est la CGT, mais c'est aussi une terre de résistance, parce que c'est aussi le Limousin, c'est aussi le Maquis, c'est aussi des campagnes qui étaient elles-mêmes très très engagées, très très résistantes. On disait ville rouge parce que à la Révolution, la Commune, Limoges était un petit peu de tous les bons plans. Donc ça reste en fait dans l'histoire en fait du lieu et c'est une terre de gauche. Aux dernières législatives, c'est d'ailleurs ça prouvait encore son statut de terre de gauche. Limoges elle-même, malheureusement, depuis quelques élections municipales, c'est plus le cas. Mais c'est dans la mémoire de tous les gens qui militent là-bas, quoi.
Emmerich, quelques années avant la naissance de la CGT, comme l'a rappelé Maryse, le syndicalisme était tout simplement interdit et même réprimé. Mais la répression syndicale, ça existe encore aujourd'hui. Tu peux nous en témoigner, toi ?
Oui, bien sûr. La répression syndicale, ça existe très clairement encore aujourd'hui. Bon, y a des exemples dans énormément d'entreprises avec des camarades qui peuvent être licenciés. Mais même moi, dans la boîte, on voit qu'on se retrouve avec des cas de discrimination syndicale régulièrement. Et heureusement, avec le collectif, on arrive à contrebalancer ça. Moi, je suis trésorier de mon syndicat. Je vois un peu quelles aides financières on fait. On a aidé plusieurs camarades à aller en justice pour démontrer la discrimination syndicale. Là, cette année, on a gagné encore 2 procès là-dessus. Parce que, en fait, on peut le combattre, la discrimination syndicale. Il faut juste être organisé et y mettre les moyens pour contrer le patron, même si c'est un patron qui souvent est assez puissant.
Et toi, dans ton entreprise, tu le constates aussi, cette répression syndicale ?
Ouais, totalement. Nous, j'ai encore 2 camarades qui ont gagné en justice sur les questions de discrimination syndicale. Et la répression, c'est aussi des pressions sur dès qu'on mène une action. On était beaucoup sur le sujet de l'écologie. Ça, à l'époque, on y est toujours, mais on avait un gros enjeu il y a 2 ans. Et la direction estimait que c'était pas du tout un sujet syndical. Ils nous ont vraiment mis des bons bâtons dans les roues, ce qui ne nous a pas empêché de continuer le combat.
Ok. Je voudrais qu'on discute ensemble d'une autre date fondatrice, pas seulement pour la CGT et pour le syndicalisme, mais pour l'histoire des luttes sociales. C'est le 1er mai 1936, le printemps du Front populaire. Maryse, je me tourne vers toi à nouveau. C'est quoi le contexte de cette manifestation, la fameuse et mythique manifestation du 1er mai 1936 ?
Alors, le 1er mai 1936, il est entre deux choses. Il est quelques mois avant, au mois de mars, s'est tenu le congrès de réunification de la CGT, puisque la CGT avait eu une scission qui a duré 15 ans. Et il y a eu une réunification au mois de mars qui a donné un élan considérable aux luttes. Et puis, le 1er mai 1936, il se tient à l'avant-veille d'une élection dont on a su après qu'elle allait porter le Front populaire au pouvoir, c'est-à-dire l'alliance des partis de gauche. Et ces deux alliances, l'unité syndicale d'un côté et l'unité politique de l'autre, elles-mêmes, elles viennent de 1934, le Front antifasciste. C'est-à-dire qu'en 1934, il y a des ligues factieuses qui veulent prendre le pouvoir et les travailleurs s'organisent pour l'empêcher. Ça donne lieu à de puissantes manifestations en février 1934. Et l'unité entre les syndicats et l'unité entre les partis politiques de gauche se noue à ce moment-là et ça donnera en 1936 le Front populaire. Alors le 1er mai 1936, il faut savoir qu'il n'était pas férié. Hein, c'est de le le 1er mai n'est devenu férié qu'après la libération et donc il y avait des appels à la grève. Mais la CGT ne croyait pas trop que la grève allait être forte. Ça se voit dans les mots d'ordre, les appels aux manifestations sont tard le soir et pas dans la journée. Et puis en fait, l'élan est tel que les travailleurs bousculent tout ce qui est prévu. Et donc, deux jours après, le Front populaire va arriver au pouvoir, mais les grèves auront commencé à partir du 1er mai 1936. Et elles vont continuer, d'autant plus que le Front populaire est élu, mais il n'est pas véritablement au pouvoir. Il y a un temps entre les deux, et c'est ce temps qu'utilisent les travailleurs pour les grèves dont nous avons tous et toutes entendu parler et qui nous font encore rêver aujourd'hui, parce que ces grèves, elles vont déboucher en juin 1936 sur des lois qui sont les premières grandes lois sociales de notre pays, qui vont faire des salariés, du salariat, quelque chose d'un petit peu enviable, c'est-à-dire bien sûr la loi sur les 40 heures, qui sera malheureusement remise en cause dès 1938, les congés payés, les deux semaines de congés payés qui ne seront jamais reprises. Ils ne réussiront jamais à revenir en arrière là-dessus. Au contraire, on augmentera au fil du temps. Et puis, bien sûr, les conventions collectives et la présence syndicale pour la première fois dans les entreprises avec tout un tas de choses. C'est-à-dire que les travailleurs, pour la première fois, découvrent la possibilité du temps libre. Et ce temps libre, y compris syndicalement, la CGT dit,
ça, c'est nouveau.
Eh ben, on ne veut pas le laisser au lucratif. Donc on va créer nos propres structures de tourisme, de culture, etc. pour que ce soit toujours cette idée d'entraide qui est dès le début, d'entraide et de culture qui est présente dès le début dans l'histoire de la CGT. Donc 36, ça reste un moment de bonheur. Hein, toutes les images le montrent. C'est le bonheur. Voilà. C'est le bonheur de la lutte. C'est le bonheur de la grève, parce que la grève, c'est la liberté. On rompt pour un temps le lien de subordination qui nous soumet à l'employeur. C'est un moment de bonheur parce qu'on partage tout ça. Et puis, c'est un moment de bonheur parce qu'on a de grandes conquêtes. Voilà, et ça reste dans la mémoire ouvrière jusqu'à aujourd'hui.
Aymeric, c'est quoi ton premier souvenir de manif du 1er mai, toi ?
Les souvenirs de manif du 1er mai, voilà, j'en ai fait après commencer à m'engager, parce que moi, mon engagement, il vient d'une occupation d'usine de mon précédent boulot.
Okay.
Donc j'ai des plus gros souvenirs quand même
d'occupation.
Déjà dans le militantisme au moment où je fais le 1er mai. Donc j'ai des grands souvenirs, mais aujourd'hui je m'occupe beaucoup de ce qu'on appelle l'animation des luttes et sécurité. Donc moi, c'est beaucoup du travail, le 1er mai. Et mes plus grands souvenirs de frissons, par contre, c'est plus lié à l'élément déterminant de 36 qui est l'occupation des usines. Et quand on occupe l'usine, moi, c'est vraiment, ça me donne encore des frissons. Je l'ai fait dans mon premier boulot, et c'est ça qui m'a donné envie de faire du syndicalisme. C'est réoccuper son lieu de travail et sortir de ce rapport de subordination qu'on a tout le temps au travail, d'obéir au chef. Et là, d'un seul coup, on est avec les collègues, on fait à manger au commun dans l'usine, on regarde un film sur les luttes des anciens de l'usine. Donc ça fait le lien avec ce que disait Benjamin sur produire des films sur les luttes locales. Et c'est vraiment des frissons. Et l'occupation, la grève en commun, c'est ça qui m'a engagé dans la voie syndicale.
Benjamin, le 1er mai, c'est un événement qui est entré dans la culture populaire.
Ah ben oui, mais même alors c'est vrai que maintenant ça a un côté un peu folklorique le 1er mai, parce que c'est très ancré et du coup il y a toute la tradition, puis il y a le côté les clichés qu'on a, voilà, merguez 1er mai, le camion sono et tout, on connaît tous, moi que j'adore, hein, qui est mon folklore
ouais,
que j'adore, mais effectivement c'est super bien ce que vous rappelez de rappeler d'où ça vient en fait. tout ce qui est représenté en fait dans ce folklore là et en fait c'est vraiment très juste ce que vous dites, parce que sur le côté ça fait partie de la culture populaire, en fait on pourrait parler oui effectivement de comment c'est représenté dans les films, voilà, ou les trucs qui moi me concernent dans mon travail, mais en réalité ce qui est important c'est que la culture populaire justement c'est les gens qui la font, et une organisation comme la CGT historiquement c'est les gens qui la font, c'est les gens qui sont à la CGT, et du coup la culture populaire c'est pas juste des œuvres qui retraceraient des choses comme ça, c'est alors les gens qui allaient filmer les luttes, qui se mettaient les artistes qui se mettaient à la disposition des combats, mais c'est aussi en fait les événements comme ça où voilà, animer un piquet de grève, une occupation d'usine ou une manif ou une chose comme ça, ça fait partie de la culture populaire, et ça c'est les gens qui s'en emparent et qui font vivre en fait cette culture-là, et qui évitent que ce soit juste un truc un peu muséifié qui est bon voilà, on manifeste le 1er mai, c'est un peu une tradition et... Non, derrière en fait il y a un souffle qui est beaucoup plus fort et c'est ça qu'il faut entretenir quoi.
Parlons maintenant de l'un des hivers sociaux les plus chauds depuis 60 ans. Je parle des grandes grèves de 1995, avec la manifestation aussi du 12 décembre 1995 contre la réforme de la sécurité sociale qui était portée par Alain Juppé à l'époque. Maryse, à l'époque, c'était l'une des mobilisations les plus massives depuis mai 68. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ?
Alors en fait, on sentait depuis plusieurs semaines, on sentait le mouvement monter. On a eu une grève de la fonction publique au mois d'octobre 1995, à l'appel de l'ensemble des syndicats, et c'était la grève la plus forte depuis la libération. Le 24 novembre 1995, il y a la manif pour les droits des femmes, et là on a une manifestation gigantesque qu'on n'avait pas connue sur ce sujet, qu'on n'avait pas connue du tout sur ce sujet précédemment. Et donc on sent qu'il se passe quelque chose. Et à la SNCF, le pouvoir commet l'erreur de cumuler un plan de restructuration de la SNCF dans le contrat de plan, donc qui prévoyait des réductions drastiques d'effectifs, de moyens pour les réseaux, etc. Et il y a un cumul dans le temps entre ce contrat de plan SNCF et le plan Juppé de la sécurité sociale.
D'accord.
Et donc déjà sur une situation de braise ardente, où on sentait, par exemple, les médias parlaient depuis plusieurs semaines de risques d'explosion sociale. On sentait que ça montait. Les fédérations CGT, parce qu'il faut aussi parler de l'organisation syndicale, à quoi elle sert. Et donc, au niveau de la direction de la CGT, les fédérations CGT, on a dit, c'est le moment, on met le paquet, on appelle à la grève partout où on est, partout où il y a des militants CGT, on appelle à la grève. Et donc ça donne, la grève commence chez les cheminots le jeudi 22 ou 23 novembre, je crois, et on essaye de prolonger. Et moi, à l'époque, j'étais secrétaire générale de la Fédération des PTT.
Et tu as été élue au bureau confédéral à ce moment-là.
C'est là que je suis élue au bureau confédéral, mais c'est pas lié à ça, c'était prévu à l'avance.
C'était prévu, d'accord.
et on a donc dans le secteur public beaucoup de grèves, et ça, c'est la colonne vertébrale du mouvement. Mais le mouvement de 95, c'est pas que les grèves. C'est les manifestations. Et pour la première fois, on voit des manifestations énormes dans le pays, notamment dans des petites villes, des villes moyennes dont on ne parle pas d'habitude, dans des départements assez reculés. Et c'est là qu'un sociologue qui s'appelle Henri Vaquin invente le mot de grève par procuration.
C'est-à-dire,
il dit, la masse des salariés de France... rejoint les manifestations, ils se sentent pas en situation de faire grève parce qu'il y a la crainte des représailles patronales, il y a les histoires évidemment de fric, etc., etc. Mais ils manifestent, ils soutiennent les grévistes et ils manifestent avec eux pour qu'ils gagnent. Et on a un espoir immense dans le pays qu'on réussisse non seulement à ce que Juppé renonce à son plan et au contrat de plan de la SNCF, ce qui au final arrivera, mais qu'on puisse véritablement changer les choses. Et le mouvement comme ça qui a débuté fin novembre se termine avec les fêtes de fin d'année. Le plan Juppé est effectivement retiré, le contrat de plan aussi, mais Chirac, qui est le président de la République, continue sa politique. Par contre, 2 ans après, il y a les élections législatives. Il est battu, la gauche revient au pouvoir, c'est la gauche plurielle, c'est Lionel Jospin, Premier ministre. Ça montre le...
C'est vrai que c'est un dynamisme qui a permis l'arrivée à la gauche au pouvoir, c'est ça que
voilà,
tu veux dire.
Voilà, c'est ça. Il y a, il y a, même si les syndicats n'étaient pas, n'appelaient pas, enfin n'ont pas conçu leur action pour que la gauche arrive au pouvoir, il y a un effet de conséquence.
C'est comme en 36, il y a un effet
si
de conséquence.
Et si je peux me permettre, oui, c'est un peu comme en 36, mais je pense que c'est la dernière fois.
Ah.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu que les expériences de la gauche au pouvoir n'ont pas toujours répondu aux attentes des salariés, cette mécanique où les luttes conduisaient à battre la droite, à mettre la gauche, cette mécanique est rompue et ça peut expliquer une grande part des problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Mais ça, c'est pas l'histoire.
C'est un autre sujet. Merci Maryse. Benjamin, est-ce que tu gardes quel souvenir toi tu gardes de 1995?
Alors bon, moi j'avais 9 ans, mais ouais, je me aussi. Souviens, il y a un truc qui est resté vraiment dans la mémoire, c'est le côté vraiment le pays bloqué.
Ouais.
C'est-à-dire vraiment. Et alors j'ai pas réussi à retrouver avant. Je suis persuadé qu'il y a un film dont l'intrigue se passe en 95 et dont le décor du film c'est juste le pays est bloqué, il est à l'arrêt. Et
je me souviens de ce film, mais je me souviens plus de son titre.
J'ai pas réussi à le retrouver avant. S'il y a des gens qui trouvent sur le chat ou quoi. Mais en fait, il y avait vraiment. Moi, j'étais petit, donc j'ai retenu ce truc de genre. Voilà, c'est fini. Mais en fait, derrière, il y a un truc qui est effectivement super intéressant. C'est ce truc de puissance collective. C'est-à-dire que c'est en fait le fait de prendre. En fait, si les travailleurs sont pas d'accord avec quelque chose qui se passe, et ben juste le pays s'arrête. En fait, le pays repose uniquement sur eux. Et sur LZE. Donc il y a vraiment un truc de prise de conscience, et y compris dans le côté par procuration qui est très très intéressant. Et quand on pense, tu vois, le mouvement des retraites, où en fait t'as, je sais pas, 80 ou 90% des actifs qui sont contre la réforme que Macron a fait passer, et ben il y a eu un mouvement qui était énorme, mais qui n'a pas été qui a pas fait ce niveau de blocage et de manifestations monstres un petit peu partout, même s'il y avait vraiment d'énormes manifestations, et on n'a pas réussi à les faire reculer. Mais parce que je pense justement il y a un manque, il y a une fatigue, il y a un manque d'espoir, il y a peut-être un problème aussi de comment se coordonner, on sait pas exactement comment faire tous être d'accord, alors que en théorie le 95 ça prouve que on peut. Tiens, en fait si 80-90% des actifs disent juste non stop, nous on veut pas ça, et voire même on veut plus de choses. Comme les choses qui ont été obtenues, tu parlais de 36, mais on pourrait parler de 68 ou quoi. En fait, c'est tout à fait possible. Mais par contre, il faut atteindre la masse critique de où les gens se... Et c'est presque pas psychologique, mais c'est un truc, c'est un déclic vraiment de se dire, en fait, si on s'y met tous, c'est sûr qu'on peut obtenir vraiment ce qu'on veut et on peut obtenir gain de cause. C'est ce qu'il y a, je trouve, derrière cette imagerie on peut mettre le pays à l'arrêt si on veut, parce que c'est nous qui faisons tourner le pays.
Emmerich, un mouvement social d'une telle ampleur que celle de 1995, est-ce que ce serait possible aujourd'hui selon toi?
Ouais, effectivement, moi tu m'as pas posé, j'avais 3 ans.
Oui, non, je n'ai pas osé te demander.
Clairement pas. Non, effectivement, c'est totalement possible. En fait, c'est un des éléments centraux, c'est que souvent on parle des secteurs bloquants dans cette logique de la grève par procuration. En réalité, les secteurs qu'on dit bloquants, c'est les secteurs organisés. Et ce qu'il nous faut, c'est plus de secteurs organisés, plus d'organisations pour réussir à mettre ce pays à l'arrêt. Si demain, le secteur super organisé, c'est la grande distribution, elle peut mettre le pays à l'arrêt. Tout comme l'énergie, ils ont eu un gros impact, tout comme les cheminots, le transport, ils peuvent avoir un gros impact. Tous les corps professionnels peuvent être bloquants, c'est une question d'organisation. Donc oui, c'est totalement possible, s'il y a une confiance des travailleurs et travailleuses dans le fait qu'ils en sont capables. C'est vraiment cette question de confiance qu'il faut qu'on regagne, et cette question de l'organisation qui est vraiment centrale.
Dernière étape de notre histoire rapide de la CGT et du syndicalisme, c'est 2006, la lutte contre le CPE. Ah. Le contrat première embauche était une idée de contrat spécifique pour les moins de 26 ans, avec une période d'essai de 2 ans pendant lesquelles un jeune salarié pouvait être licencié à tout moment sans motif ni justification de l'employeur. Le résultat de cette idée brillante de Dominique de Villepin, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'étudiants dans la rue, des blocages de fac, des semaines de grève et finalement l'abandon de cette réforme. Benjamin, toi tu as participé à,
oui.
à ce mouvement, raconte-nous.
Et à Limoges, et j'étais à la fac, donc beaucoup plus impliqué évidemment, mais du coup moi je l'ai fait côté étudiant, parce que c'est un mouvement qui est parti justement plutôt des étudiants, de la jeunesse en réalité, et la jeunesse organisée est plutôt dans les facs, dans les lycées. Mais ça a marché parce que c'était une question de travail, et que très vite les organisations syndicales ont rejoint le mouvement, et que du coup c'était un mouvement de toutes les travailleuses et travailleurs, que ce soit la jeunesse ou les autres secteurs organisés, et c'était hyper formateur. Enfin, pour moi, genre, quand t'as 20 ans, tu fais ça, c'est, t'apprends, en fait, ta capacité d'action et à t'organiser. Et puis, tu fais des liens aussi, c'est con, hein, mais tu fais des liens avec des gens, de choses que tu oublieras jamais, qui sont des liens forts et qui sont utiles pour la suite. Bon, alors, bon, là, on avait gagné, donc moi, j'ai un peu pris la confiance à ce moment-là. Et après, ça, c'est, les autres mouvements, c'était, c'est pas passé aussi bien. Mais ouais, c'était quand même un moment hyper fort. Et je pense qu'on n'a pas exactement, peut-être c'est avec le truc générationnel, mais j'ai pas revécu ça depuis avec vraiment ce niveau d'ampleur et de coordination vraiment entre tous les secteurs. Et voilà, donc c'est vraiment des moments fondateurs. Mais je pense que chaque génération en fait a ces moments où en fait tu découvres quoi. Tu dis genre mais en fait on peut faire ça. Et tu reprends une façon de prendre la vie en main, parce que tu vois, sur un discours individualiste d'entrepreneur, de dire prends ta vie en main, et en fait ça, c'est nul à côté de dire tu fais ça collectivement avec les gens, et la puissance que t'as, et l'expérience humaine que c'est, et la capacité à améliorer aussi les conditions de vie là-dedans, c'était vraiment une découverte.
Et puis c'était une des dernières fois où un gouvernement a reculé face à un mouvement, qui plus est un mouvement étudiant oui, et oui, jeune oui. Et lycéen. Oui. Maryse, comment est-ce que la CGT s'est coordonnée avec les étudiants à l'époque?
Oui, alors on n'a pas la CGT n'a pas rejoint le mouvement. Elle a même été la première à le lancer, puisque la toute première manifestation était le 31 janvier devant l'Assemblée nationale. Il y avait très peu de monde, mais l'UNEF est venue, l'organisation lycéenne est venue, et nous avons réuni une intersyndicale de salariés et ensuite avec les syndicats de lycéens et d'étudiants très rapidement. En fait, nous avons considéré qu'il y avait un enjeu commun et que nous devions tous les syndicats, agir ensemble et nous écouter, pendant 4 mois, nous avons tenu une intersyndicale avec 12 organisations, donc c'est pas simple, hein, organisation de salariés, organisation étudiante et lycéenne. Et le principe était que chaque fois qu'une des organisations émettait une proposition, eh bien, on essayait de la travailler. Il y en a qui voulaient manifester le samedi. Bon, cette fois-ci, c'était pas bon, mais la fois d'après, on manifestait le samedi. Il y en a qui préféraient appeler à la grève. Bon, cette fois-ci, c'était pas possible. La prochaine fois, on allait appeler à la grève, etc. Et on a tenu comme ça pendant 4 mois, avec des liens très étroits entre nous. Et on oublie l'avant et l'après, toujours dans toutes les luttes. L'avant, c'est fin 2005, c'est des émeutes sociales de jeunes dans les banlieues.
Dans les banlieues, oui.
Et c'est parce que le gouvernement ne sait pas comment s'en sortir que Dominique de Villepin décrète l'état d'urgence et contre lequel la CGT se bat et lance le CPE. Les 4 mois, je viens d'en parler. Et derrière, nous avons, c'était 2006, le CPE, et 2008, c'est la crise financière. Et l'année 2008, nous avons à nouveau en intersyndicale réussi à faire 3 manifestations avec plusieurs millions de personnes, avec l'idée, la crise c'est eux, la solution c'est nous. Donc on voit le potentiel qu'il y a lorsqu'il y a l'unité et comment on peut avancer, bouleverser l'ordre des choses. Et sur le CPE, le souvenir, je pense, que nous avons toutes et tous, c'est cette chose extraordinaire que le CPE a été adopté à l'Assemblée nationale, il a été promulgué et le président de la République, une fois la loi promulguée, a dit « Je vous demande de ne pas appliquer la loi ». Dans une vie militante, enfin, pour moi, je me suis dit « Bon, ben, ça y est, avoir obtenu ça dans une vie militante, c'est extraordinaire, quoi.
Hein, » C'est vrai que c'était un peu lunaire.
Ça récompense, c'est...
C'était un peu lunaire, cette
voilà, promulgation, non promulgation. C'est comme ça. Donc, c'est aussi pour donner de l'espoir, ce que je dis là, c'est-à-dire que on n'en a jamais fini. Avec la lutte, on peut tout bouleverser. On peut bouleverser tous les plans prévus, tout ce qui est prévu contre nous. Le problème, c'est notre unité, notre solidarité, notre confiance en nous-mêmes et dans l'avenir. Et c'est ça qui peut, à tout moment, tout changer, y compris aujourd'hui où pourtant la situation est très compliquée. Oui. Mais elle dépend de nous. Elle dépend toujours de nous.
Aymeric, quel souvenir que tu gardes de ces grandes manifestations ?
Du CPE ?
Ouais.
Alors moi, j'étais en quatrième, donc autant les lycées et les universités étaient le fer de lance, nous, on était un peu moins. Mais c'est quand même un moment où même mon collège a été bloqué quelques jours. Donc c'est vraiment une période pour moi d'éveil un peu aux grands enjeux politiques en pleine adolescence. C'était vraiment le premier moment. Après, c'est pas un moment de militantisme aussi fort que pour toi. Les générations juste après moi, ça a beaucoup été 2016. Moi, j'étais étudiant 2010 à 2015. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu la réforme des retraites 2010, mais après, c'était très calme. Par contre, ouais. 2016, il y a beaucoup de camarades ici. C'est des premières dates. Et après, pour d'autres, c'est vraiment... Moi, syndicalement, vraiment sur l'activité syndicale, c'est l'hiver 2019-2020, réforme des retraites. Parce que là, maintenant, à ce moment-là, j'étais déjà syndiqué, actif dans mon syndicat. Et 2023, où là, on a fait vraiment plein d'actions super, avec être sur les barrages hydroélectriques au fin fond des Alpes pour soutenir les camarades de l'énergie, à faire des actions avec les cheminots. C'était vraiment des grands moments.
Merci beaucoup à Maryse, Benjamin et Aymeric. Je vous demande de les applaudir très fort. Merci beaucoup. Je vais vous laisser quitter le plateau, les amis. Merci beaucoup d'être venus. Merci Maryse.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste dire un tout petit mot très, très rapide, parce que je ne serais pas un très bon syndicaliste si je ne disais pas un petit mot de solidarité pour notre collègue de Blast, Yanis, qui est actuellement emprisonné en Israël. Voilà. Donc ça aussi, solidarité. Et je sais que les organisations de journalistes, etc., sont aussi derrière. Et voilà, je tenais à le dire.
Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toutes et à tous.